إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 63 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, écrit par le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, Rahimahullah, et c'est avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah, dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim, ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et le cours 63, c'est le début du volume 2 de la série, des 5 volumes. Donc c'est le volume 2, il y a 5 volumes, et là c'est le volume 2 qu'on commence aujourd'hui. Et les numéros de pages sont continus, donc ça veut dire que même si on est au volume 2, on continue au même numéro de pages qu'on a terminé dans le volume 1, c'est-à-dire à la page 477. D'accord. Donc, alhamdoulillah, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne plusieurs hadiths. Donc, on va lire ces hadiths-là ensemble, puis on va lire l'explication de Cheikh al-Fawzan de ces hadiths en premier. Donc, il dit: « وَأَيْضًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُمَيْدِ ibn عَبْدِ الرَّحْمَنِ ibn عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً عَامَ حَجَّةً على المنبر وتناول قصة من شعر كان في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه، ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. أي نعم. وتناول قصة من شعر، أي نعم، قصة من شعر كانت في يد حرسي. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté dans As-Sahihain. Donc peut-être je devrais tous les lire en premier, puis après la traduction. Donc on va lire les autres aussi. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم اتخذتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وسماه الزور. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة ذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحذور بغيره فيترك الجميع. كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. نعم. donc les hadith en question, premièrement il y a le hadith qui est rapporté dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, selon Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. Il dit qu'il a entendu Muawiyah le jour qu'il a fait le Hajj. Il était sur le minbar et il a pris yani des cheveux, il a pris des cheveux dans sa main qui était dans yani, il a pris des cheveux puis il a montré aux gens. Il a dit: oh les gens de Médine, où sont vos ulama? Il a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit ce genre de choses, c'est-à-dire les rallonges, hein, et les perruques, les choses de ce genre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de choses. Et il a dit: Banu Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël, ont péri lorsque leurs femmes ont pris cela, lorsque leurs femmes ont commencé à porter ce genre de choses, c'est-à-dire les rallonges et les perruques et toutes ces choses-là. Il dit: وفي رواية سعيد بن المسيب, dans la narration de Saïd ibn al-Musayyib qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, que Muawiyah un jour a dit: vous avez pris une parure mauvaise, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qui est faux, et un homme est venu avec un bâton, et sur la tête du bâton il y avait comme un genre de linge ou un genre de morceau de tissu. Et Muawiyah a dit: ça fait partie de la fausseté ou de zour, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est péché. Et il a dit, Qatada a dit, c'est-à-dire des morceaux de tissu que les femmes utilisent pour augmenter leurs cheveux. Donc elles attachent des morceaux de tissu dans leurs cheveux pour augmenter le volume de leurs cheveux. وفي رواية, dans une autre narration de Ibn al-Musayyib qui est mentionnée dans As-Sahih, le Sahih de l'imam Muslim aussi, que Muawiyah est venu à Médine et il s'est adressé à nous dans un discours, et il a sorti comme une perruque ou un morceau de cheveux, avec un truc avec des cheveux dessus. Puis il a dit: je pensais jamais que quiconque allait porter cela excepté les juifs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis à ce sujet que c'était interdit, et il l'a appelé zour. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné aussi au fait d'attacher des cheveux, c'est-à-dire d'attacher des rallonges aux cheveux des femmes. Et il a dit: les fils d'Israël ont péri lorsque leurs femmes ont inventé ce genre de choses. Et donc il avertissait la Ummah de Muhammad, il avertissait sa Ummah de ne pas faire comme eux et de ne pas les imiter. Et c'est pour ça que Muawiyah a dit: je pensais jamais que quelqu'un le ferait autre que des juifs. Et il a dit: donc qu'est-ce qui fait partie, Cheikh al-Islam, il dit après, qu'est-ce qui fait partie des parures ou des vêtements des juifs? Eh bien, les musulmans ne doivent pas le porter. soit parce que ça fait partie des choses pour lesquelles ils ont été châtiés, ou que ça peut être parmi les choses qui font faire en sorte que ils seront châtiés. Donc pour éviter de rentrer dans qu'est-ce qui est haram, eh bien on doit laisser de côté tout ce qui peut être source de justement de châtiment, toutes choses pour lesquelles ils ont été châtiés. Et si on n'est pas capable de distinguer entre qu'est-ce qui a été source de châtiment pour eux ou non, dans ce cas-là, le mieux c'est de laisser tomber le tout, et de considérer le tout comme étant interdit. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné au sujet des informations qui viennent des juifs, et il nous a dit, lorsqu'on ne peut pas distinguer entre ce qui est vrai et faux de ce qu'il nous rapporte, eh bien de laisser le tout. De laisser le tout. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, ces narrations-là, il dit « قَوْلُهُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍ هَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ مَفَادُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أمير المؤمنين لما رأى فعل بعض الناس في وقته في وقت حكمه وقد قدم المدينة النبوية خطب الناس على المنبر وأنكر هذا الفعل وهو تشبه نساء المسلمين بنساء الكفار في وصل شعورهن والتزين بما ليس من خلقتهن والذي هو من باب التزوير ثم ذكر معاوية أن هذا مما هلكت به بنو إسرائيل فحذر من وصل الشعر بالشعر بشعر غيره نعم فحذر من وصل الشعر بشعر غيره وذكر أنه من الزور. Donc le cheikh il dit que les hadiths qui sont mentionnés, comme le premier dans lequel il mentionne qu'il a pris des cheveux dans sa main, une mèche de cheveux ou quelque chose comme ça, il dit ça c'est un grand hadith. Et ça indique et ça prouve que Muawiya, radiallahu anhu, lorsqu'il était Amir al-Mu'minin et qu'il était le khalifa, le responsable des musulmans, il a vu que les musulmans de son époque, lorsqu'il est venu à Médine, avaient commencé à faire quelque chose de pas correct. Donc il s'est adressé aux gens sur le minbar et il a condamné. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les femmes des musulmans avaient commencé à imiter les femmes kuffars en rajoutant des rallonges dans leurs cheveux et des parures qui ne font pas partie de leur création. Et que ça fait partie de qu'est-ce qui est faux, tazwir, ça fait partie du zour. Et ensuite, Muawiya a mentionné que les fils d'Israël avaient péri à cause de ça. Et donc il a mis en garde contre le fait de faire des rallonges de cheveux qu'on attache à nos cheveux et que ça fait partie du mensonge et du zour. Il dit ولهذا جاء في الحديث الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وما أكثر ما ابتليت به النساء المسلمات اليوم من التشبه بالكافرات في شعورهن ومنهن من تقصه وتدرجه ومنهن من تجعله على شكل جمة الرجل فتتشبه بالرجال وتحل عليها اللعنة ومنهن من تغير لونه وتصبغ بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات وتغير لونه الجميل الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان. أي نعم سبحان الله. Le cheikh il dit, et c'est pour ça que dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit Al-Wasila والمستوصله, c'est-à-dire celle qui attache les rallonges à la femme dans ses cheveux, celle qui le fait pour elle, et celle qui se le fait faire, c'est-à-dire celle qui se fait mettre des rallonges dans ses cheveux. والواشمه والمستوشمه, c'est l'état, الواشم c'est les tatouages, donc c'est celle qui se fait tatouer et qui tatoue, et celle qui tatoue également, ça rentre dans la malédiction, hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit le cheikh, et comme sont nombreuses à notre époque les femmes musulmanes qui ont été éprouvées par la ressemblance aux femmes mécréantes dans leurs cheveux, il dit, il y en a certaines d'entre elles qui les coupent de la même manière que les femmes mécréantes, ou qui les font dégrader de la même manière que les mécréantes. Et il y en a parmi elles, celles qui se font des coupes, qui sont des coupes qui ressemblent aux coupes des hommes. Donc elles sont sous la malédiction. Et certaines d'entre elles, elles changent le cheveu, la couleur de leurs cheveux, et se font teindre les cheveux pour avoir les couleurs des cheveux, les mêmes couleurs que les cheveux des femmes mécréantes. Et donc, elles changent leur belle couleur de cheveux noirs vers une autre couleur de cheveux, hein, que les femmes mécréantes portent. Allah al-Musta'an. Il y en a même qui mettent des couleurs, hein, comme rouge, vert, bleu. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est pour imiter les femmes kafirates aussi. Donc le cheikh, il dit, tout ça, ça fait partie des épreuves, hein, et des épreuves, des tests, et ça fait partie aussi du shaitan. Qu'est-ce que le shaitan a embelli pour les hommes? Ça, c'est de l'égarement, il n'y a pas de doute. Et le hadith de Al-Wasila wal-Mustawsila wal-Washima wal-Mustawshima, et qu'elles sont maudites, ça c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab dans Al-Bukhari et Muslim. Naam. Ensuite le cheikh il explique, il dit, وَلِهَذَا فَإِنَّ مُعَاوِيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْكَرَ هَذَا الْفِعْلَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَيَّنَ أن وصل الشعر وإن كان بالخرق محرم وقس على ذلك ما تفعله بعض المسلمات اليوم من تغيير لون العيون ليوافق اللباس أو الشعر فهذا من التشبه الذي ابتليت به كثير من المسلمات وما ذلك أيضا ما تفعله ومن ذلك أيضا ما تفعله بعض النساء من النمص وهو أخذ شعر الحاجبين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a maudit, comme le cheikh il dit, il a maudit النامصة والمتنمصة. Donc il dit وهو أخذ شعر الحاجبين أو بعضه والتي تفعل ذلك ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. أي نعم. Donc je continue l'explication, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a mentionné, hein, lorsqu'il a dit والتي تفعل ذلك ملعونة على لسان رسول الله حيث قال لعن الله النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. Il dit le cheikh que Muawiyah, lorsqu'il est venu donc à Médine, il est monté sur le minbar et il a condamné ce que certaines personnes ont fait, hein. Et il a montré l'exemple des mèches de cheveux qu'il avait, et il a montré aussi des sortes de morceaux de tissu, hein, et il a mentionné que d'attacher avec les cheveux des morceaux de tissu, que ça aussi c'est muharram, que c'est interdit. Et il y a des femmes qui font ça. Hein? Des femmes qui s'attachent, avec, elles font des tresses par exemple, avec leurs vrais cheveux, mais elles rajoutent dans leurs cheveux des morceaux de tissu de différentes couleurs. Et bien ça aussi, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Naam. Et donc il dit, tu peux, bon, avant de mentionner qu'est-ce qu'il dit ensuite, juste expliquer un point, c'est que souvent, comme en Haïti, c'est ça que les femmes haïtiennes, elles font souvent ça, de rajouter des rallonges dans leurs cheveux. Et en Afrique aussi, c'est la même chose, les femmes africaines qui rajoutent des rallonges dans leurs cheveux. Tout ça aussi, ça, c'est interdit. Soit de rajouter des rallonges ou de rajouter des mèches, hein, des mèches de cheveux, ou bien de rajouter des tissus, des morceaux de tissu de couleur dans les cheveux. Tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit dans l'islam. Et même si elles vont dire, par exemple, qu'elles ont les cheveux d'une texture différente, et qu'il faut faire ça, non, ce n'est pas une excuse pour désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit ensuite, وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا تَفْعَلُهُ بَعْدُ الْمُسْلِمَاتِ. Il dit, tu peux faire des analogies avec ça et ce que font certaines femmes musulmanes aujourd'hui, qui changent parfois même les couleurs de leurs yeux avec des lentilles, hein, des verres de contact, et qui mettent des verres de contact de couleur à agencer avec leurs vêtements, agencer à leurs cheveux. Le cheikh, il dit, ça aussi, ça fait partie de la ressemblance au kuffar par laquelle beaucoup de femmes musulmanes ont été éprouvées. Et ça aussi, ça rentre dans l'exemple de l'interdiction, tel que le cheikh, il le mentionne. Et il dit aussi, certaines femmes musulmanes, qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles se font épiler les sourcils, hein, elles font qu'est-ce qu'on appelle un nams. Un nams, c'est yani le fait d'épiler les sourcils ou d'enlever les sourcils au complet ou une partie des sourcils. Il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'enlèvent complètement les sourcils et puis après elles font avec un crayon, elles tracent une ligne comme si c'était des sourcils, yani. Et il y en a d'autres, eh bien, elles ne les enlèvent pas au complet. Elles font juste les former ou les couper ou les enlever, les faire d'une certaine façon pour que ce soit d'une plus fin ou des choses de ce genre. Donc, ça aussi, ça rentre dans l'interdiction et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui fait ça et il a dit la'an Allahu an-namisa. C'est-à-dire que Allah a maudit la femme qui épile les sourcils à une autre ou celle qui demande à une autre de lui épiler les sourcils. Donc il y a la malédiction pour les deux. Le cheikh il dit ensuite وقوله فسماه الزور يعني أن هذا كله تزوير لأنه تغيير للحقائق فالمرأة تظهر بغير حقيقتها وتتشبع بما لم تعطى فتكون كلابس ثوبي زور كما في الحديث. Donc Cheikh il dit que Muawiyah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça un mensonge, une forme de tazwir, de falsification, de fraude, hein. Et il a dit donc que tout ça, ça fait partie du mensonge et de la fraude, hein, et parce que c'est de changer la création d'Allah. Donc la femme, elle doit être naturelle et paraître dans sa forme naturelle, la forme dans laquelle Allah l'a créée. Parce que sinon, il dit, c'est comme celle qui s'est remplie le ventre de ce qui ne lui a pas été donné. Alors elle est comme si elle portait deux vêtements de fraude, deux vêtements de mensonge, comme c'est mentionné dans le hadith, d'accord. Et aussi les tatouages, comme le cheikh il a mentionné dans le hadith précédent, al-washima wal-mustawshima, Yani ça c'est devenu une mode maintenant. Le tatouage à l'époque, c'était que des criminels, des prisonniers qui faisaient ça dans les pays de Kufr. Et les gens qui faisaient partie de gangs ou des choses comme ça. Maintenant, c'est devenu une mode qui est généralisée. Tout le monde se fait tatouer n'importe quoi sur le corps. Et il y en a qui se font tatouer presque partout. À la base, c'était des peuples mouchriquines qui faisaient des tatouages. Hein? Tous les peuples de mouchriquines se faisaient tatouer différents dessins sur le corps. Les Chinois, les gens des îles, les Indiens, les différents peuples de mouchriquines se faisaient des tatouages. Et parmi les musulmans, il y en a. Hein? Il y en a qui font des tatouages aussi. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est haram. On voit par exemple dans certains pays du Maghreb, des vieilles dames parfois qui ont des tatouages sur le menton, sur ou bien sur le front, je sais pas, sur différentes parties du visage. Et c'est des traditions berbères, des traditions différentes traditions ancestrales, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, et ça a été interdit par l'islam. Non. Ensuite le cheikh il dit: وقول معاوية رضي الله عنه ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. أخي tu peux tourner le truc un petit peu en même temps. بارك الله فيك. Non, c'est correct. نعم أن معاوية يعني أن معاوية معناه أن معاوية استغرب أن يكون هذا في المسلمين وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس مغرمون بالتقليد والتشبه، والحاصل أن التشبه بالكفار محرم لعلل كثيرة. donc le cheikh il dit Muawiyah il a dit, et je ne pensais jamais que d'autres que les juifs allaient faire ça, allaient porter ce genre de rallonge, ce genre de mèche, ce genre de tissu dans leurs cheveux, les tresses, des trucs comme ça, les tresses avec des rallonges. Hein. Ça c'est de rajouter aux cheveux des cheveux qui ne font pas partie des cheveux naturels de la personne. Ou des morceaux de tissu, ou des choses comme ça. Donc il dit, je ne pensais jamais que autre que les juifs allaient faire ça. Et il dit, ça veut dire que Muawiya, il s'étonne que les musulmans fassent ce genre de choses. Et surtout, à la ville du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens, malheureusement, ils aiment suivre et imiter, et ressembler à d'autres. Allah musta'an. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, c'est que l'imitation des koufars c'est haram, et les raisons de l'imitation des koufars sont nombreuses, et il donne des différentes raisons pourquoi c'est interdit. Il dit منها أنه سد للذريعة لما يفضي إليه التشبه بهم من المفاسد والمحاذير. Donc premièrement, parmi les raisons pourquoi c'est interdit d'imiter et de ressembler aux kuffars, c'est parce que c'est pour fermer la porte à l'imitation des kuffars, hein, pour fermer la porte à ce qui pourrait nous amener justement à les imiter encore plus et à nous faire tomber dans des choses qui sont des corruptions et des choses interdites, des choses graves. Donc c'est pour fermer la porte à l'imitation. Deuxièmement, Thania, ناحية الثانية أن هذا يورث المحبة لهم وأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. Le cheikh il dit, le fait de les imiter, eh bien ça risque de nous faire les aimer, de nous faire aimer les kuffars. Parce que en général lorsqu'on cherche à ressembler ou à imiter quelqu'un, ça indique qu'à l'intérieur de nous, il y a de l'amour pour cette personne ou cette chose qu'on veut imiter. Hein? Subhanallah. Donc par exemple, tu vois qu'il y a des gens, par exemple, ils vont dire ah non, moi je veux pas couper mes pantalons en haut de la cheville. C'est pas beau, hein? Ça fait pas un beau style, c'est pas cool, hein? A'udhu billah. Mais si les koufars commençaient à faire ça, puis que ça devenait une mode chez les koufars, tu vois, tous les musulmans voudraient couper leurs pantalons en haut de la cheville, commencer à faire les pantalons en haut de la cheville. Et là, tu leur dirais, mais pourquoi tu le faisais pas avant? Maintenant, tu coupes en haut de la cheville parce que c'est devenu une mode chez les koufars. Maintenant, tu veux le faire toi aussi parce qu'eux, ils le font. Mais avant ça, non, tu voulais pas le faire parce que tu disais que c'était pas beau. Hein? A'ouzoubillah. Donc, ça prouve à quel point les gens sont devenus, yani, subhanallah, ils veulent imiter à tout prix les koufars dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est yani, un des signes du complexe d'infériorité des musulmans. Parce qu'ils ne vont pas imiter celui qu'ils pensent être inférieur à eux. Ils pensent imiter uniquement ceux qu'ils considèrent comme étant supérieurs. S'ils imitent les koufas, ça veut dire que dans leur cœur, les koufas sont supérieurs aux musulmans. Sont supérieurs, hein, et non inférieurs. Donc ça veut dire que ces gens-là, ces musulmans-là, ils n'ont pas de fierté d'être musulmans et de suivre l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le vrai musulman, yani, peu importe les modes des koufars, ça ne veut rien dire pour lui. Ça n'a aucune importance pour lui. Il ne veut pas ressembler à ces modes-là et suivre ces modes-là. La seule chose qu'il cherche à imiter, c'est l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre l'exemple des sahabas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'est ça la seule mode qui est valable. Toutes les autres sont, hein, des modes d'égarement, des modes de qui amènent, hein, à l'enfer. Allahu musta'an. Donc le cheikh dit an-nahiya ath-thalitha inna hadha yadullu 'ala at-ta'zim lahum li'annahu li'anna al-aqall yatashabbah biman huwa fawqahu wa ad-da'if yatashabbah bil-qawi. Donc c'est ça ce que je disais. Comme le cheikh dit, ça indique, non seulement ça indique, comme deuxième chose qu'il a dit, ça indique que tu les aimes à l'intérieur. Troisièmement, ça indique que tu les respectes et que tu les vois supérieurs. Il dit pourquoi? Parce que les musulmans, parce que quelqu'un va seulement imiter celui qu'il considère être supérieur à lui et au-dessus de lui. Il ne va pas imiter le faible, celui qui est faible. Regardez par exemple dans un pays, n'importe quel pays, s'il y a une ethnie qui est regardé avec mépris ou dénigré, hein, et je parle des pays de Kufr, yani. S'il y a une ethnie ou un peuple qui est regardé avec dénigrement et qui n'est pas respecté, hein, dans ce pays-là, puis que des étrangers viennent dans le pays puis regardent dans la société, ils vont voir que ah, ce peuple-là, il est méprisé, il est dénigré. À qui il va essayer de yani, ces étrangers là, quand ils arrivent, ils vont essayer de ressembler à qui? Est-ce qu'ils vont essayer d'imiter le peuple qui est dénigré et humilié pour leur apparence ou leur façon de s'habiller, ou bien ils vont essayer de ressembler à ceux qui dénigrent et à ceux qui sont au-dessus? Ils vont essayer de ressembler à ceux qui sont respectés et ceux qui sont forts et ceux qui sont, hein, qui se font pas dénigrer. Et ben c'est comme ça, les musulmans, s'ils perdent la fierté et leur foi et leur identité, ben ils commencent à vouloir imiter les autres et ils considèrent les autres supérieurs à eux. Hein, ils considèrent les autres supérieurs à eux et ils se considèrent eux comme étant inférieurs. Et même s'ils ne le réalisent pas, c'est la réalité. Des fois, ça, c'est des choses qui sont parfois inconscientes même. Hein? Tu vas dire même des gens, ils font des choses, parfois tu leur demandes pourquoi tu fais ça, ils savent même pas eux-mêmes pourquoi, hein? C'est vrai, parce que comme tu dis, tu demandes à une femme par exemple qui marche à moitié nue dans la rue, tu lui dis mais pourquoi tu marches à moitié nue dans la rue, pourquoi tu mets pas des vêtements, hein? Pourquoi tu t'habilles pas pour couvrir ton corps plus pudiquement et pour être plus respectable? Et puis elle va dire hein, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça m'habiller comme ça, hein. tu lui dis non, en vérité tu t'habilles comme ça parce que tu veux attirer le regard des hommes sur toi, tu veux te faire remarquer. Et elle va dire non, pas du tout, non, je ne fais pas ça pour ça. Parce que si, et ça c'est comme on dit, c'est, des fois c'est plus fort que toi. Hein? Tu ne réalises même pas pourquoi tu fais quelque chose. Et le shaitan, il l'a même trompé au point qu'elle s'imagine que non, elle fait ça pour elle-même. Alors qu'en réalité, si elle savait que personne n'allait la voir, eh bien, elle n'aurait pas pensé même à se s'habiller de cette façon-là. Hein? Donc si c'est comme ça pour les femmes par rapport aux hommes, eh bien imaginez les hommes dans ce cas-là, pourquoi eux ils vont s'habiller de certaines façons et non pas d'une autre. Quand tu vois un musulman, il a les pantalons en bas de la cheville, tu lui dis ya akhi, ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'avoir les pantalons en bas de la cheville, ça c'est dans le feu. Et puis lui il te dit ah, mais c'est pas beau. Hein? C'est pas beau ça. Même en Haïti par exemple, il y avait un comédien qui s'appelle Languichat. Tous les Haïtiens connaissent Languichat. Lui, c'est un personnage comme un peu. Caricatural pour se moquer un peu de certains types d'Haïtiens, tu vois. Et puis, il avait toujours son pantalon levé en haut de son nombril et en haut de ses chevilles. Hein, le pantalon dépasse toujours en haut de ses chevilles, très, très haut, puis il est comme la taille, tu sais, le haut de son pantalon jusqu'à son ventre avec les bretelles. Les gens se moquent de cette apparence-là à cause de ce look-là, tu vois. Donc quand il voit quelqu'un qui a des pantalons élevés comme ça, il l'appelle Languichat. Même si, tu vois. Donc quand quelqu'un, par exemple, il devient musulman en Haïti ou bien même à Montréal, si des Haïtiens voient qu'il a les pantalons élevés, ils vont dire, ah, regarde, tu t'habilles comme Languichat, tu imites comme si tu essaies de ressembler à Languichat. Non, ça c'est les koufars, yani. Nous, on va mettre nos pantalons en haut de la cheville ou jusqu'au milieu de la jambe parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de le faire. Peu importe que pour un peuple ou pour tel ou tel peuple ce soit pas beau ou que pour eux c'est quelque chose qui est méprisé ou mal vu, l'important pour le croyant c'est pas qu'est-ce que les autres pensent ou qu'est-ce que les autres vont dire, mais c'est de respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois que beaucoup de gens, malheureusement, parmi les musulmans, ils s'attardent trop à ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Alors que tu vois que des kuffars, ils vont porter des attricures, puis des façons de s'habiller totalement bizarres, hein? Puis ils marchent dans la rue avec toute leur confiance et en toute confidence, hein, en toute confiance en eux-mêmes, ils ne sont même pas troublés ou dérangés par les regards moqueurs, les railleries, les commentaires, les œillades. Non, ça leur fait rien du tout. Alors qu'ils sont dans l'égarement. Tu vois des gens avec des vêtements, hein, des pantalons déchirés. Complètement. Ils les achètent déchirés déjà. Même ils vont payer plus cher parce que c'est déchiré des fois. Subhanallah. Et ils marchent avec ça, ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas gênés. Hein? Alors que, à la limite, ils devraient être gênés. Quand quelqu'un il a un pantalon déchiré, subhanallah, il n'est pas à l'aise. Hein? Il dit, ah, j'ai déchiré mon pantalon, je me sens pas bien parce que yani, ça fait pas normal d'avoir des pantalons déchirés. Mais eux non, c'est la mode qui leur dit il faut avoir des pantalons déchirés et ils marchent comme ça comme si oui c'est tout à fait normal. Et tu vois le musulman et la femme musulmane, eux ils ont honte, ils sont gênés et quand quelqu'un les regarde mal, ils se sentent comme agressés. Et il se dit, mais pourquoi il me regarde? Parce qu'on s'occupe de qu'est-ce que les gens pensent de nous. Et à cause de ça, on est, on est mal. Et eux, quand ils voient que ça nous dérange, quand ils voient que leur regard nous dérange, ils font exprès pour nous regarder encore plus, pour nous embêter. Alors, si on est totalement indifférent et qu'on fait qu'est-ce qu'on a à faire pour Allah et qu'on est en confiance avec nous-mêmes, ils vont être eux-mêmes, disons, ils vont peut-être même respecter justement plus encore le fait qu'on est à l'aise avec notre propre personne, et du fait qu'on est à l'aise avec notre propre personne, puis qu'on est bien dans qu'est-ce qu'on fait, ils vont nous respecter et ils vont même pas nous remarquer à la fin. Hein? Quand tu vois là les femmes koufars qui marchent dans la rue, moitié, presque nues, complètement, et les vêtements minces et tout, tu vois toutes les formes, les détails de son corps, et qu'elle est même pas gênée, elle a même pas honte de marcher comme ça, subhanallah. Alors que toi, probablement que chez toi, dans ta maison, même chez toi, devant tes proches, tu ne vas même pas t'habiller comme ça. Par honte, par gêne, du fait que tu as de la pudeur. Eux, en plein public, devant tout le monde, ils n'ont aucune gêne. Donc, si c'est comme ça, Yanni, pourquoi nous, on va être gênés d'avoir de la pudeur? On est gênés d'avoir de la pudeur, puis on a honte d'être pudique. C'est le monde à l'envers, comme on dit. Tout ça à cause de l'imitation des koufars. Tu veux imiter les koufars. Si les koufars, ils ont des pantalons qui traînent par terre par-dessus leurs chaussures, toi, tu veux avoir des pantalons qui montent par-dessus tes chaussures qui traînent par terre aussi. Et puis, tu marches dans la rue, quand il y a de la pluie, tous tes pantalons sont remplis d'eau. Et tu vois la marque d'eau qui monte jusqu'à en haut de ta cheville. Là. Tes pantalons, tout le bas des pantalons sont mouillés complètement. Subhanallah. Et puis ça te dérange pas. Mais d'avoir les pantalons en haut de la cheville, ça te dérange. Et puis il y en a, tu les vois, subhanallah, ils te ramènent les divergences. Ah, tel alim il a dit non, finalement c'est pas haram, c'est makruh. Et puis ils te ramènent des irtilafs et je sais pas quoi. Yani, subhanallah, le hadith il est clair. Donc je veux dire, comment tu vas ramener? Et en même temps aussi, pourquoi tu vas ramener? Comme s'ils veulent t'imposer de mentionner les divergences sur chaque question. Pourquoi? Pour dire à tout le monde, faites qu'est-ce que vous voulez, prenez la position qui vous plaît. Alors que Allah, dans le Coran, il dit, jugez, quand il y a des divergences, ramenez-les à Allah et à son messager. C'est pas de dire aux gens, il y a 10 positions sur tel sujet, donc vous pouvez choisir une des 10. C'est pas ça la méthode. C'est pas ça le manhaj des salafs. Donc, parmi les raisons pourquoi on a été interdit d'imiter les koufars, on a mentionné jusqu'à date 3 raisons. La première, c'est pour fermer la porte à des choses plus mauvaises. Deuxièmement, parce que ça ramène de l'amour pour ceux qu'on imite. Troisièmement, parce que ça veut dire qu'on les respecte, parce que le faible veut toujours ressembler au fort. Donc ça veut dire qu'on se considère faible soi-même et qu'on considère les autres forts. Et ça, c'est un problème. Le cheikh dit ensuite, وقوله فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون به أن يعذبون عليه يعني سبق أن الشيخ تعرض للحديث عن الدخول في ديار المعذبين إلا من كان باكيا خوفا من أن يصيبه مثل ما أصابهم وكذلك سبق أنه قال وحتى لو لم يثبت أن هذا مما يعذبون عليه فإنه يترك من باب سد الوسائل المفضية إلى التشبه بهم فقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية وعليها أدلة سبق أن الشيخ ذكر أمثلة كثيرة منها فالخلاصة أن ما عليه الكفار من عاداتهم ومظاهرهم لا خير فيه لا سيما ما كان خاصا بهم. أما الأمور المشتركة والمنافع والمصالح العامة فهذه الأخذ بها ليس من التشبه بهم، وإنما هو من الأخذ بالشيء النافع الذي أصله للمسلمين، لكن المسلمين قصروا في العمل له وطلبه، والكفار جدوا فحصلوا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'exemple de qu'est-ce que portent les juifs qui ne fait pas partie de ce que les musulmans portent ou qu'est-ce qu'ils font, et soit que ça fait partie des choses que Allah les a châtiés pour ça, hein, ou non. Puis il mentionne d'autres exemples par la suite. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage là puis il dit que on a déjà parlé précédemment l'interdiction d'entrer dans les endroits où les koufars ont été châtiés, des terres où il y a eu des châtiments, excepté que quand on rentre en pleurant par crainte qu'on soit frappé ou touché par la même chose que ce qui a touché ce peuple. Donc ça c'était un point qu'on a mentionné à ce sujet. Ensuite il dit, et on a mentionné également dans les cours précédents, que même si on n'arrive pas à affirmer ou à confirmer plutôt que la chose qu'on fait fait partie des choses pour lesquelles ils ont été châtiés, on doit quand même le délaisser dans le but de fermer la porte à tout ce qui pourrait nous amener à les imiter dans les choses dans lesquelles ils ont été châtiés. Donc c'est une règle générale qui est la règle qu'on appelle en arabe Sadd al-Zara'i'. Sadd al-Zara'i'. Et c'est une règle qui est bien connue dans la charia islamique. Hein? Cheikh, par exemple, l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne 99 preuves pour ce principe dans la charia. Il y a beaucoup de preuves qui confirment que même si quelque chose est halal dans l'islam, si on sait que cette chose halal peut nous faire tomber dans le haram, elle devient haram, même si elle est halal à la base. D'accord ? Donc ça c'est un principe très important dans la charia. Et donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de preuves, on en a mentionné déjà dans les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le passé, et donc c'est ça qui résume que si quelque chose fait partie des traditions et des apparences que les koufars ont, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de bien pour nous là-dedans. En particulier si ce sont des choses qui leur sont particulières et qui leur sont spécifiques. Tandis que si ce sont des choses communes ou des bienfaits communs et généraux, dans ce cas-là, on peut les prendre. Il n'y a pas de ressemblance au koufar là-dedans. Mais c'est uniquement de prendre quelque chose de bénéfique qui, à la base, devait être aux musulmans. Mais, étant donné que les musulmans ont eu des manquements et qu'ils se sont laissés aller, donc ils n'ont pas travaillé pour l'obtenir, et les koufars, eux, de leur côté, ont fait des efforts puis ils l'ont obtenu, et bien dans ce cas-là, ça c'est des choses générales, on a le droit d'en profiter, ça ne fait pas partie du tashabbuh. Le cheikh ensuite il mentionne donc ensuite les paroles de Ibn Taymiyyah dans ce qui suit, il dit wa aydan ma rawa nafi'un, donc c'est ça, ma rawa nafi'un an ibn Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر ابن قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليأتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وهذا معنى وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال ويعني وهو قول جمهور أهل العلم وفي مذهب أحمد قولان وإنما الغرض أنه قال لا يشتمل اشتمال اليهود فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن هذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. Donc le cheikh il dit qu'il est rapporté selon Nafi', selon, Amr, selon Ibn Omar, hein, le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ou que Omar a dit que si l'un d'entre vous a deux vêtements, c'est-à-dire deux pièces de vêtements, un vêtement pour le haut et un vêtement pour le bas, hein, s'il a deux vêtements, alors qu'il prie avec les deux. Mais que sinon, s'il n'a qu'un seul vêtement, un seul tissu, alors qu'il le porte comme isard, hein, qu'il le porte comme isard, c'est-à-dire un vêtement qui se porte, hein, autour de la taille, hein, qui couvre le bas du corps, et qu'il ne s'enveloppe pas avec comme le font les juifs. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et d'autres avec une chaîne de transmission authentique. Et il dit cette signification est authentique, rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la narration de Jabir et d'autres. Et il a dit que, par exemple, dans la narration de Jabir, il dit que si quelqu'un a un vêtement qui est trop serré, alors qu'il l'utilise comme izar, qu'il y a un yattaziru bihi, et il va pas s'envelopper avec, mais il va plutôt le mettre comme izar. Un izar, c'est quoi? C'est le vêtement qu'on porte à la taille, qui est enroulé autour de la taille et qui couvre le bas du corps, du nombril jusqu'à en haut de la cheville. C'est ce qu'on appelle l'izar. Et c'est porté dans plusieurs pays musulmans, le izar. On le porte en Arabie, on le porte au Yémen, on le porte en Indonésie, dans beaucoup d'autres pays aussi. Au Pakistan, en Inde, vous trouvez beaucoup de gens qui portent le izar. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait partie des vêtements que les musulmans portaient. Et après, le cheikh il dit, et cette signification, donc, elle est comme on a dit, elle est correcte. Le cheikh il dit que ça, c'est la position de la majorité des ulama, et dans le madhab de l'imam Ahmed, il y a deux opinions à ce sujet. Et il dit, le but ici, c'est uniquement de dire que on ne doit pas s'envelopper de la même manière que les juifs, comment ils se couvrent avec leurs vêtements. Et il dit, parce que le fait que l'interdiction soit rattachée, hein, au fait de que l'action soit faite par les juifs, eh bien, ça rajoute un effet à l'interdiction, comme on l'a déjà mentionné. Hein? Sinon, si c'était seulement interdit par lui-même, il n'aurait pas besoin de mentionner que c'est quelque chose qui est fait par les juifs. Mais s'il mentionne que c'est quelque chose qui est fait par les juifs, ça dit que le fait que ce soit fait par les juifs, ça rajoute le fait que c'est interdit à cause de ça. Donc ça veut dire que de les imiter ou de leur ressembler, eh bien, c'est interdit à la base. Et le cheikh dit « wa qawluhu إذا كان لأحدكم ثوبان، donc Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فليصلي فيهما. هذا الحديث من الأدلة على منع التشبه باليهود باللباس في الصلاة. فإذا كان الإنسان عنده ثوبان، يعني قطعتان من القماش، فإنه يجعل إحدى القطعتين إزارا والثانية رداء بحيث يستر جسمه بذلك. أما إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد، يعني قطعة واحدة، فإنه يأتزر بها كما في الحديث. وإذا كان الثوب قطعة واحدة كبيرة تغطي جسمه من أعلاه إلى أسفله، فإنه يلتحف بها يلتحف بها على جميع جسمه، ولكن لا تكون التحافه بها على صفة ما يفعله اليهود خشية أمرين: التشبه بهم وانكشاف عورته، بل الواجب عليه أن يوثق الثوب بحيث لا ينكشف شيء من عورته. دونك الشيخ الزي شيخ الفوزان يزي سو حديث يزيك l'interdiction de ressembler aux juifs dans les vêtements qu'on porte dans la salat. Et il dit, si quelqu'un a deux vêtements, qu'est-ce qu'il veut dire ici par deux vêtements? Il veut dire deux pièces de tissu. Donc si quelqu'un il a deux pièces de tissu, il en utilise une pour, comme izar, c'est-à-dire il va couvrir avec le bas de son corps, de la taille jusqu'en haut des chevilles, ça c'est le izar. Donc une des pièces de tissu va être utilisée pour le bas, puis pour le haut, rida. Rida, c'est qu'est-ce que tu portes sur tes épaules et sur le haut de ton corps, un peu comme qu'est-ce que les hujjaj portent lorsqu'ils vont faire le hajj ou la umrah. Ils portent un izar et une rida. D'accord? Donc c'est le vêtement, deux pièces de tissu, une pour le bas et l'autre par-dessus ses épaules pour le haut. C'est ça que on appelle l'izar ou rida, et c'est ça qu'on veut dire lorsque quelqu'un a deux vêtements. Ok? Ça veut dire deux pièces de tissu. Et le cheikh il dit, naam, donc il doit se couvrir le corps avec ça. Mais il dit donc, mais par contre, s'il n'a qu'une seule pièce de tissu, supposons qu'il n'a qu'une seule pièce de tissu et non deux, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Eh bien, il l'utilise pour faire un izar avec. Il couvre le bas de son corps. Hein? Donc, pourquoi? Parce que le plus important à couvrir, c'est la aura, c'est les parties intimes. Donc, il ne va pas le mettre sur ses épaules s'il a juste un morceau de tissu. Il doit le mettre là où c'est le plus important, c'est-à-dire couvrir sa aura. Et il dit ensuite, le cheikh, donc il fait l'izar avec. Mais si c'est une pièce de tissu, mais qui est vraiment, vraiment grande, hein, et qu'il est capable de couvrir tout son corps avec, de s'envelopper complètement avec, de l'entourer autour de lui, dans ce cas-là, il l'entoure autour de lui, mais il ne doit pas le faire de la même manière que les juifs le font. Hein, de le mettre par-dessus lui comme on appelle ça, comme un manteau, là. Hein, comme un manteau, de s'envelopper dedans comme un manteau qui s'ouvre à l'avant. Hein, c'est comme ça que les juifs faisaient, ils prennent un tissu, là, ils le mettent par-dessus leur tête, puis ils s'enveloppent dedans par en avant. Ben ça c'est pas permis parce que par en avant dans le sens que ils le mettent sur leur tête et sur leur dos, puis ils le ferment par en avant. C'est pas permis pour deux raisons. Parce que on craint deux choses. Premièrement, l'imitation des juifs, et deuxièmement, de faire paraître la aura. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est de bien attacher le izar comme il faut pour que rien n'apparaisse, hein, de la aura, hein, des parties intimes. Et il dit ensuite, وقوله أمر في الثوب الضيق بالاتزار يعني أن القطعة الواحدة يتزر بها لا يلتحف بها لأنه إذا التحف بها يبقى مفتوحا من الأمام وربما تظهر عورته وقوله. Donc c'est ça. Donc il dit, si le vêtement est étroit, donc il doit l'utiliser comme izar. Au lieu de faire un vêtement complet avec, eh bien il va faire un izar avec. Pourquoi? Parce que si c'est juste un morceau de tissu, eh bien s'il s'enveloppe avec, Et ça va rester ouvert en avant. Et donc, sa aura ne va pas être couverte correctement. Hein? Donc, il y a toujours des risques. Donc, c'est mieux de de pas le faire de cette façon-là. Il dit وقوله قول جمهور أهل العلم يعني إذا كان الثوب قطعة واحدة ضيقة فإنه يتزر بها. Donc ça c'est la position de la plupart des hommes de science, c'est-à-dire les ulama, ils disent si c'est juste un morceau de tissu qui est étroite, eh bien il doit l'utiliser comme izar. Il dit وقوله فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن هذه الإضافة تأثير لهذه الإضافة تأثير يعني أن الاشتمال بالثوب الواحد على له علتان كما سبق الأولى أنه قد تنكشف عورته والثانية وهي أهم التشبه باليهود لأنهم يشتملون في الثياب في عباداتهم. Donc le cheikh il dit également, ça indique que le fait que la chose soit attribuée aux juifs, hein, pour l'interdiction, lorsqu'on mentionne l'interdiction, ça indique que ça rajoute quelque chose et ça a un effet. Hein. Le fait que ce soit un acte fait par les juifs, ça rajoute que l'interdiction d'imiter les juifs. Donc, le cheikh, il explique que, donc, à l'ijtimal, hein, de porter les vêtements comme à la façon des juifs, hein, et bien ça c'est interdit pour deux raisons, parce que ça couvre pas correctement la aura, et deuxièmement ça c'est une ressemblance avec les juifs, et donc ça c'est deux raisons pourquoi on doit pas faire ça de cette façon et on ne doit pas imiter les kuffars. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui inshallah. Puis au prochain cours, on continuera d'autres exemples de preuves au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.